RFI et France 24 présentent
Mardi politique.
C'est l'heure des Mardis politiques sur France 24 et RFI. Bonsoir Frédéric.
Bonsoir. Réviens.
Ensemble, nous recevrons dans la deuxième partie de cette émission Yannick Jadot, député européen écologiste. Mais pour commencer, nous saluons l'un des candidats au poste de premier secrétaire au Parti Socialiste, Emmanuel Morel. Bonsoir.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous.
Merci à vous de m'inviter.
Vous aussi, député européen. Vous êtes quatre à vous présenter, donc trois concurrents face à vous pour prendre la tête du Parti Socialiste, Olivier Faure, Stéphane Le Foll et Luc Carvounas. Et l'on vous présente, vous, comme le chef de file de l'aile gauche du PS. Alors, j'ai envie de vous poser cette question, reprendre le PS, est-ce que c'est pas comme racheter une vieille ruine? Bien sûr, on peut la retaper, mais il y a du boulot.
C'est la vieille maison, comme disait Léon Blum, c'est-à-dire en effet un vieux parti. Un vieux parti qui a eu des heures glorieuses, qui aujourd'hui va pas très bien. Nous avons connu une déroute au printemps dernier, un score inédit à la présidentielle, des législatives qui étaient pas bonnes, et des militants qui se posent des questions, parce qu'il y a eu trop d'ambiguïté, de confusion. Mais moi je crois que cette vieille maison, il est aisé de la relever, pourvu qu'on soit clair sur un certain nombre de choses, et c'est ce dont je parle à l'occasion de ce congrès.
Quand on achète une vieille maison comme ça, qu'il faut retaper, il y a deux solutions. Il y a soit il en reste suffisamment, et notamment des fondations, pour pouvoir rebâtir, ou alors on détruit tout et on reconstruit intégralement à neuf. Vous seriez partisan de cette formule.
Je veux pas tout détruire. On a quand même une histoire. Et d'ailleurs, les Français, quand on leur parle du Parti Socialiste, ils pensent à cette histoire. Celle de 1981, celle de 1997 avec Lionel Jospin, et même si on remonte plus loin, on va parler de la SNCF tout à l'heure, celle de 1936, le Front Populaire, et des grandes avancées pour les gens. Et ben, le Parti Socialiste, dans le Parti Socialiste, il y a social. Et bien moi, je veux renouer avec cette tradition sociale, un parti de gauche, central, qui essaye de s'adresser au corps central de la société, les ouvriers, les employés, la jeunesse, qui a été un peu délaissé pendant le quinquennat qui s'est écoulé, et qui est aujourd'hui très inquiète, parce que Emmanuel Macron, qui est issu du dernier quinquennat, à qui nous avons fait en quelque sorte la courte échelle, mène une politique, et clairement une politique brutale, contre le monde du travail, contre la jeunesse française.
Alors on va essayer de comprendre ce que vous voulez faire, ce que vous avez envie de proposer donc aux militants. Mais il faut pointer ce paradoxe tout de même, c'est que le Parti Socialiste n'a jamais été si mal en point alors que les inégalités n'ont jamais été si fortes. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que le PS, quand même, est à contre-temps?
Ah ben non, ce que vous soulevez est très important. Le Parti Socialiste est à terre au moment où jamais les réponses socialistes n'ont été autant d'actualité. C'est-à-dire, depuis la crise de 2008, depuis la crise financière...
Mais elles n'ont pas marché
parce qu'on ne les a pas essayées. La vérité, c'est que lors du dernier quinquennat, Nous avons mené une politique à contre-temps. Finalement, c'est ce qu'on pourrait reprocher à François Hollande, c'est que il avait presque 10 ans de retard, 20 ans de retard. Faire Tony Blair après la crise financière de 2008, ça c'était d'une certaine façon archaïque. Mais jamais on a eu autant besoin...
En fait, c'est de la chouflotte de Jospin. Jospin aurait dû faire le Tony Blair justement en même
temps.
Non,
justement, lui voulait... voix anglaise... C'est pas une voie qu'on devait emprunter. Mais ce qui est très intéressant dans ce que vous avez soulevé, c'est que moi je pense qu'on n'a jamais eu autant besoin de coopération, de régulation, de souveraineté, de solidarité. Et ça, c'est des réponses socialistes. Donc, précisément, l'enjeu de ce congrès, c'est aussi de montrer à quel point notre message, il est d'actualité, est pertinent.
Alors, je vais laisser la parole à Frédéric, mais en fait, est-ce que vous pensez qu'il faut dire aux Français, le libéralisme, c'est baisser les impôts des plus riches, c'est baisser les impôts des entreprises, faut faire l'inverse de ce que fait Emmanuel Macron, mais j'ai envie de vous dire que tout ce que vous venez de dire là, ça a été tenté pendant 20, 30 ans, ça n'a pas marché. Plus d'État, quand vous dites le modèle social, il a échoué.
Ça fait 30 ans qu'on baisse les cotisations sociales. Parce qu'on dit que les entreprises ont besoin de restaurer leurs marges. Ça fait 30 ans qu'on baisse les cotisations sociales. Est-ce que ça a eu un effet sur la baisse du chômage? Non. Ça fait 30 ans qu'on remet en cause les services publics. Et même qu'on privatise. C'est le cas dans d'autres pays européens, c'est le cas en France. Est-ce que ça marche? Non. Donc précisément, la réponse libérale, moi, ce qui m'étonne toujours, c'est que, en fait, le libéralisme est un dogmatisme. Emmanuel Macron et les autres libéraux se présentent comme des pragmatiques, mais en réalité, ils sont rivés à des dogmes sacro-saints qui ne fonctionnent pas, ça ne marche pas.
Pas vous, le keynésianisme, plus d'État, c'est pas des dogmes.
Ah ben, je pense que dans une situation comme celle-ci, la relance de l'activité économique, par exemple par la consommation ou par l'investissement public, ça serait très important. Je vous signale quand même, c'est un chiffre important, c'est la première fois depuis 1945 qu'on a une baisse de l'investissement public en France. Or ça se ressent concrètement dans les services, dans les biens collectifs, dans la vie quotidienne des gens. Donc les réponses socialistes, telles que moi je les préconise, hein, parce qu'après il y a des divergences de vues entre nous, entre les candidats, mais c'est tant mieux. Moi je suis pour un socialisme qui ne soit pas soluble dans le libéralisme. C'est peut-être ça qui fait ma spécificité dans ce congrès. Mais je pense que les messages que je porte sont d'actualité. J'ai regardé hier un discours de Jeremy Corbyn,
ouais,
le leader du Labour.
Oui, c'est le Mélenchon anglais.
Pas du tout. C'est un leader traditionnel, mais qui en revient aux fondamentaux, qui dit, bah voilà, il y a un problème, vous y faisiez allusion, il y a un problème de répartition des richesses. Eh bien, il faut rémunérer davantage le travail et moins le capital, qui dit, en Angleterre c'est très important, nous tenons à nos services publics et nous devons retrouver les services publics. Bah ça, c'est une réponse moderne.
Mais vous faites ce constat, Emmanuel Morel, alors, et au fond vous dites, c'est vrai que la situation légitimerait les solutions, les orientations politiques que nous proposons. Cette vision des choses, elle existe et elle a existé, y compris sous François Hollande. Elle s'est illustrée à travers ce qu'on a appelé les frondeurs. Comment se fait-il que, au sein de votre famille politique, finalement, le courant de gauche ou le plus à gauche ait perdu cette bataille des idées?
Quand est-ce qu'on a perdu la bataille des idées?
Au sein du Parti Socialiste, ce n'est pas votre courant qui l'a emporté.
Non mais
dire le Parti socialiste n'a pas su faire pression par exemple sur le président de la République pour nous conduire une politique vraiment de gauche.
Mais vous soulevez un vrai problème. Notre problème c'est l'exercice du pouvoir. Ouais. Quand François, non mais c'est vrai. Oui. C'est-à-dire que François Hollande, il arrive sur un programme. Il se trouve que il s'émancipe d'un certain nombre de ses engagements. Il prend des décisions dont nous n'avons jamais débattu. Quand il fait le CICE, par exemple, c'est quelque chose dont on n'avait jamais parlé. Quand il fait la loi travail, à la fin du quinquennat, c'est quelque chose dont nous n'avions jamais parlé. Et précisément parce que nous avons quasiment ingéré les institutions de la Ve République, ou plus exactement qu'elles nous ont avalées, nous sommes incapables de dire « stop, là c'est pas possible ». On a eu un Parti Socialiste qui était atone, qui s'auto-censurait, qui disait rien. On a eu un Parlement dont le rôle était minoré, abaissé. Est-ce que l'épisode auquel vous faites allusion, celui des frondeurs, c'est symptomatique de quoi? De gens qui ne se parlent plus. Quand Manuel Valls est devenu Premier ministre, s'est instauré un dialogue de sourds qui fait que nous n'avons pas pu délibérer collectivement.
Julien Drey, par exemple, qui à un moment donné avait envisagé d'être candidat lui-même au poste de Premier secrétaire, avait dit qu'il faudrait, quand on est au pouvoir, un congrès par an, pour pouvoir en quelque sorte évaluer la politique qui est conduite et faire pression si nécessaire sur le président de la République en disant attention, on te suit ou on te suit plus. Ça c'est une bonne idée ou pas?
Je crois qu'il faudrait consulter régulièrement les militants, qu'on soit dans l'opposition ou au pouvoir. Je prends un exemple. Si les militants étaient consultés régulièrement, la déchéance de nationalité, nous ne l'aurions jamais proposée. Parce que l'immense majorité des socialistes étaient contre. Si les militants étaient régulièrement consultés aujourd'hui par exemple, prenons un exemple très concret, le traité de libre-échange avec le Canada, le CETA. Il va venir devant l'Assemblée nationale, vraisemblablement au deuxième trimestre 2018. Ben moi, je veux que les militants socialistes se prononcent, pour que les députés socialistes et les sénateurs socialistes qui seront amenés à voter ce texte, ils aient quand même en tête ce que pensent les militants. C'est ça que nous n'avons pas su faire pendant le quinquennat précédent, c'est élaborer collectivement une politique. On a délégué à un exécutif qui était de plus en plus seul, parce que l'Élysée, ça isole, une politique qui, progressivement, s'est éloignée de ce pourquoi on avait été élu. Et les gens nous ont voulu pour ça aussi, parce que, moi, je me souviens très bien, quand on a fait la déchéance de nationalité, les gens nous disaient, enfin, quand on a proposé François Hollande, les gens nous disaient, mais est-ce que ça, c'est conforme à l'idée que vous faites du socialisme? C'est ça, les questions auxquelles on était confrontés.
Vous voulez une opposition face à Emmanuel Macron, mais vous êtes aussi... Est-ce que vous avez un espace à côté de Jean-Luc Mélenchon? Quel est l'espace du Parti socialiste dont vous rêvez aujourd'hui face à Macron et face à Mélenchon?
C'est pas une question d'espace, de part de marché. Il y a un rôle historique du Parti socialiste qui est de proposer à la fois un autre partage des richesses, un autre partage des savoirs, un autre partage des pouvoirs. Et cet espace-là, il existe. Vous savez, il y a plein de socialistes qui ont voté Emmanuel Macron parce qu'ils avaient peur d'un deuxième tour entre Froissant, Fillon et Le Pen. Vous en connaissez sûrement dans votre entourage, moi aussi. Il y a des socialistes qui ont voté Jean-Luc Mélenchon parce qu'ils avaient le sentiment qu'il était une sorte de boussole à gauche, qui rappelait un certain nombre de fondamentaux. Mais ces fondamentaux-là, à nous, socialistes, de les assumer à nouveau, de les porter, de les promouvoir, c'est totalement possible, pourvu qu'on le veuille. Moi, je pense vraiment que rien n'est perdu. Pour reprendre la question initiale sur la vieille maison, rien n'est perdu, pourvu qu'on sache qui l'on est, pourvu qu'on sache ce que l'on veut, et surtout pourvu qu'on sache pour qui on se bat. Pour qui on se bat? C'est pour ça que je rappelle sans arrêt les ouvriers, les employés, les fonctionnaires, ces gens.
Le PS est devenu un parti de fonctionnaires aujourd'hui.
Et si déjà on avait fonctionnaires, ça serait pas mal, hein. Parce que hélas, aux dernières élections législatives, on a fait 2 millions de voix des fonctionnaires, il y en a 5,5 millions. Donc vous voyez,
vous avez perdu
ça serait
en
déjà
route,
pas
en
mal. Mais moi justement, je suis pour dire.
Non, mais oui, pour vous dire que les ouvriers, vous les avez pas du tout. Ils sont chez Mélenchon ou chez
Il faut les reconquérir, il faut les retrouver. Et pour ça, il faut qu'on soit en résonance avec leurs aspirations. C'est pour ça que je parle de salaire, de services publics, d'égalité entre les territoires.
Aujourd'hui, parmi les quatre candidats qu'on a cités au début, vous êtes le seul à incarner ce que vous pourriez peut-être, je sais pas, je vous prête une expression, vous direz si vous la validez ou pas, mais une forme de vraie gauche?
Non, je dirais un socialisme décomplexé, qui se cache pas derrière son petit doigt, qui s'excuse pas d'être socialiste.
Alors le socialisme décomplexé, vous êtes le seul à le représenter.
Socialisme qui peut gouverner, parce que vous disiez un problème avec la gouvernance.
Non, mais
gouverner, c'est trahir pour certains socialistes.
Non, pas du tout. Vous pouvez gouverner et ne pas trahir. On l'a démontré dans le passé. Hein. Il y a quand même la plupart du temps.
Il y a toujours un surmoi chez les socialistes quand ils.
Non,
gouvernent.
Mais ça, c'est une petite musique qu'on entend souvent, mais ça n'est pas vrai. Quand nous arrivons au pouvoir en 81, nous faisons quasiment l'intégralité des 110 propositions de François Mitterrand.
Et après le tournant de la Régler en 83.
Mais je m'excuse, mais les gens, à la fin du quinquennat de François Mitterrand, leur condition de vie matérielle s'était améliorée. C'est ça que je retiens. Donc pour revenir à votre question, un socialisme décomplexé, c'est un socialiste qui s'assume. Et par exemple, qui ne prend pas le vocabulaire des autres. Moi, quand un dirigeant socialiste dit charge sociale au lieu de cotisation sociale, ça m'exaspère. Quand un dirigeant socialiste dit coût du travail, alors qu'on peut parler de prix du travail, ça m'exaspère. Quand un ministre socialiste parle de client au lieu d'usager d'entreprise publique, ça m'exaspère. Donc moi, je veux qu'on retrouve nos mots, notre vocabulaire, notre grille de lecture de la société. Ça plaira pas à tout le monde, eh ben tant mieux, c'est ça le
débat. En fait, vous voulez rien changer, vous voulez retourner.
Mais c'est le contraire, pas du tout. Moi, je veux tout changer. Mais tout changer, ça ne veut pas dire pour autant.
Vous dites les mots historiques.
Mais c'est pas des mots historiques, ce sont nos mots. C'est les mots qu'on a abandonnés progressivement parce que ça ne faisait pas forcément bien sur les plateaux télé de dire qu'on était pour des cotisations sociales, c'est-à-dire du salaire différé. Bah tant pis. Moi, je suis pour qu'on en revienne à ces fondamentaux-là, ce qui n'empêche pas de s'intéresser à toutes les luttes nouvelles. Hein, vous avez un sujet majeur, vous en avez déjà parlé, c'est la question de l'évasion fiscale, par exemple. Sujet sur lequel on doit se mobiliser. Le libre-échange généralisé aujourd'hui, c'est un sujet sur lequel on doit se mobiliser. Voilà.
Alors, est-ce que vous allez vous mobiliser sur la réforme de la SNCF, donc, puisque le gouvernement a promis et se met à la tâche avec cette réforme, là, une des vaches sacrées du service public, la SNCF.
Non, ça c'est votre expression.
Non, mais vache sacrée, c'est vrai que j'entends par là que peu de gouvernements, qu'ils soient de droite ou de gauche, ont touché à la SNCF.
Mais pourquoi?
Par peur. Regardez 95.
Mais pourquoi?
Des grèves, par peur.
Non, parce que la SNCF, c'est le patrimoine de tous les Français. C'est une vieille entreprise, 1938, juste après le Front Populaire. Ça a été renforcé en 1945. C'est quoi? C'est un maillage territorial formidable. C'est parmi les tarifs les plus bas d'Europe. Et évidemment que...
Donc faut rien, cette réforme, vous dites...
Ah si, je pense que notamment, il faut renforcer les investissements sur les petites lignes. Et sur le maillage territorial qui doit être renforcé. Oui, mais je crois pas que le problème principal en France, ça soit le statut des cheminots. Ça, c'est vraiment... Vous savez, ce que fait Macron, c'est extrêmement grave. D'abord sur le fond et aussi sur la forme. Le fait de vouloir passer une telle réforme via les ordonnances, c'est quand même une conception de la démocratie incroyable. Je veux dire, on a vraiment un président qui se défie de tous les corps intermédiaires, qui n'aime pas les élus locaux, il n'aime pas les syndicats, il n'aime pas les associations et il essaye de passer en force, sorte de stratégie du choc qui quand même témoigne d'une conception de la démocratie qui est très archaïque, parce qu'il se veut moderne, incroyablement moderne, mais moi cette verticalité qui fait l'impasse sur le débat parlementaire ou même sur le débat public, ça témoigne d'une conception très ancien régime de la démocratie, lui qui se veut pourtant le héros du nouveau monde.
Emmanuel Morel, le Parlement européen a voté l'ouverture à la concurrence du trafic ferroviaire.
Oui, ça je le regrette, amèrement.
Ça j'imagine, mais ça a été voté. Dans ces conditions, d'ailleurs hier, Louis Gallois, qui est l'ancien PDG, enfin pas PDG, mais président de la SNCF, il y aura peut-être dans l'avenir un PDG, mais c'était un président.
Mais il va y en avoir un, parce qu'il veut le transformer en société
anonyme. C'est pour
anonyme.
Ça que je dis, il y en aura peut-être un. Disait que le statu quo ne serait pas toléré par Bruxelles. Donc cette ouverture à la concurrence a été votée dans ces conditions. Est-ce que la France peut ne pas faire cette réforme? Est-ce qu'elle n'est pas de toute façon maintenant pieds et poings liés?
Non, pas du tout. Il y a dans le règlement de 2016 un article, c'est l'article 5, paragraphe 4 je crois, qui précise que si la qualité de service est menacée ou si les tarifs sont susceptibles d'augmenter si on ouvre à la concurrence, alors on peut continuer à avoir des services publics qui assurent...
Ça suppose des études d'anticipation, de...
Ben faisons-les. On est quand même instruit par l'expérience. Dans les secteurs qui ont été ouverts à la concurrence, où on nous promettait une amélioration des services et des prix qui baissent, bah regardons le résultat, c'est pas franchement flamboyant. Et surtout, on a quand même un problème, c'est que si on a une ouverture à la concurrence réelle, la plupart des petites lignes qui sont pas rentables, personne ne voudra y aller. À terme, on les ferme. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire une France à deux vitesses. C'est-à-dire d'un côté, on a des métropoles qui sont reliées entre elles, avec des sociétés qui vont se battre pour assurer ces liaisons, et de l'autre, des pans entiers de notre territoire qui vont être abandonnés, délaissé. Ben moi, je ne veux pas de cette France-là.
Mais ça, il ne va pas y toucher aux petites lignes.
Il dit qu'il ne va pas y toucher, mais dans le même temps...
Il ne votera pas le rapport
supérieur. Oui, enfin, et d'abord, moi, je me méfie de ce qu'ils disent. Puisque de la même façon, ils disent qu'on ne va pas privatiser la SNCF. Je m'excuse, remettre en cause le statut des cheminots, c'est le prélude à la privatisation. Nous le savons très
regardez
bien.
La catastrophe de la privatisation en Grande-Bretagne.
Ah ben, je suis heureux de vous l'entendre dire. Oui. C'est une catastrophe.
Une catastrophe
exactement.
Pour la sécurité.
C'est une catastrophe pour la sécurité et pour le pouvoir d'achat des Anglais, parce que ça représente 14% de leurs revenus, là où en France, ça fait 2%. Donc, il ne faut pas privatiser. Et je
cependant,
pense même
45, ça, la dette...
La dette,
c'est pas... Elle retombe quand même sur l'État, donc sur les contribuables.
D'ailleurs, entre nous soit dit, si on la transforme en société anonyme, la dette, elle va être prise par qui? C'est un autre problème, c'est-à-dire qu'il n'y aura plus d'investissement parce qu'évidemment, les banques ne voudront plus prêter. Mais je reviens quand même à votre question sur la privatisation en Grande-Bretagne. On a précisément le résultat de ce qu'il ne faut pas faire. Je parlais de Jeremy Corbyn hier, il faisait un discours, il parlait de ça. La qualité déplorable des transports. Bah, soyons fiers, enfin franchement, en France...
Mais est-ce que pour autant il faut craindre une privatisation?
Non mais en France, on a tendance toujours à se dévaloriser, à se déprécier. Bah là, on a un beau service public, une belle entreprise. Il y a des choses, la dette, en effet, il faut s'y attaquer, le sous-investissement, le choix du tout TGV, c'est des choix qui doivent être interrogés. Mais franchement, ne cassons pas ce formidable outil qu'est la SNCF.
Est-ce que c'est la notion même des services publics qu'on remet en cause, selon vous, avec ce type de réforme?
Mais moi, je pense que le gouvernement n'aime pas le service public. Moi, je vous le dis très clairement, sauf quand il s'agit des hauts fonctionnaires. Parce que taper sur les cheminots, ça, ok, mais les inspecteurs des finances et tous les collègues de Monsieur Macron, ça, leur carrière n'est pas remise en cause, leur capacité de pantoufler allègrement dans les banques et de revenir après dans les cabinets ministériels, ça, personne s'y intéresse. C'est aussi ça, la France de Monsieur Macron, le nouveau monde de Monsieur Macron, cette espèce de fusion rêvée entre les élites néolibérales et la noblesse d'État. Et vous voulez, Monsieur Macron, il me fait penser à Édouard Balladur. En plus moderne, en plus fringant, peut-être en moins poussiéreux.
En plus jeune aussi.
Mais en plus jeune. Mais la réalité de sa politique, ça, moi...
En plus sympa, peut-être.
Peut-être.
Ça, c'est plus personnel.
Peut-être. On peut le voir comme ça. N'empêche que, moi, je me souviens très bien, j'étais un jeune militant politique, je me souviens de ce qu'on appelait le cercle de la raison. Des gens responsables, de droite, de gauche, qui disaient, mais oui, ce que fait M. Balladur, c'est bien pour la France. Il s'attaque aux services publics, il s'attaque aux régimes spéciaux de retraite, il est obsédé par la dette. Bah, on a vu ce que ça a donné. Donc, moi, je pense que cette réforme va pas dans le bon sens. Je ne fais pas confiance au gouvernement.
Est-ce qu'elle peut passer comme une lettre à la Poste?
Autre service public.
La Poste, mais là aussi, on pourra en parler, mais qui est aussi un excellent service public. La baisse du
courrier... Non, mais ce que je veux dire par là, c'est est-ce que s'il gagne cette bataille-là, est-ce que c'est une bataille symbolique pour Emmanuel Macron? S'il la gagne, ça veut dire qu'il peut tout faire après, derrière.
Non. Bon, ça, je ne crois pas.
Non.
D'abord, ils ont ouvert tellement de chantiers à la fois. Il y a une sorte de frénésie de réforme, parce qu'il veut s'attaquer clairement à notre modèle social. Mais d'abord, il ne gagnera pas cette bataille-là. Et puis, de toute façon, quand bien même il marquerait un point, nous serions toujours là, dans la rue et au Parlement et dans la société, pour s'y opposer.
Voilà. L'action a gagné 1,...
RFI et France 24 présentent
Mardi politique.
Retour dans Mardi politique avec Frédéric Rivière. Nous recevons notre deuxième invité. Bonsoir Yannick Jadot.
Bonsoir.
Vous êtes député européen écologiste. Merci d'être avec nous. Donc on va parler de ce qui fait causer en ce moment. C'est le gouvernement qui s'apprête à faire passer par ordonnance la réforme de la SNCF. Est-ce qu'elle a besoin d'être réformée, la SNCF ?
Oui. Oui, elle a besoin d'être réformée parce que la SNCF est le principal outil au service du train, au service de l'aménagement du territoire. Et moi, ce que je regrette dans ce débat, c'est qu'on est en train de partir sur la question de la méthode, les ordonnances, sur la question du statut des cheminots, alors qu'il y a un énorme sujet d'aménagement du territoire, il y a un énorme sujet de démocratie, de socialisation de toutes les parties du territoire français autour du rail.
Donc on se trompe de sujet dans cette réforme.
Je crois qu'on veut faire passer une réforme de la SNCF en s'attaquant à la question du statut des cheminots, alors que le vrai sujet devrait être l'aménagement du territoire. Vous savez qu'il y a toute une partie de la population française qui se sent aujourd'hui abandonnée, qui a l'impression que l'ensemble des politiques publiques servent les métropoles, servent ceux qui sont déjà intégrés, ceux qui ont accès déjà à des transports publics, et que sur leur territoire, c'est moins d'emplois, moins d'activités économiques, on ferme les bureaux de poste, on ferme l'ensemble des services publics, et on va probablement fermer un certain nombre de gares. Donc moi, je souhaiterais qu'on ait ce grand débat sur le ferroviaire au service de l'aménagement du territoire. Comment on garantit que chacune, chacun a accès à un transport collectif et notamment au train.
La différence, Yannick Jadot, c'est que vous partez d'une réflexion qui consisterait à améliorer le service, ce qui probablement coûterait de l'argent, et que le gouvernement, lui, part de l'idée de faire des économies. Donc vous voyez bien que vous n'avez pas les mêmes objectifs.
Quel est le sujet dans notre pays aujourd'hui? Si on veut qu'il y ait des entreprises qui aillent dans certaines zones rurales qui sont aujourd'hui abandonnées du point de vue économique, il faut des trains. Vous pensez qu'on va réussir à mettre des médecins dans des déserts médicaux aujourd'hui si il n'y a plus aucun service public? Si la seule solution qu'on propose aux habitants, c'est soit vous déménagez et vous abandonnez votre région, soit vous prenez votre voiture pour faire des kilomètres parce qu'on ne vous offrira plus un service public du transport. Bien sûr qu'un service public, ça coûte de l'argent. C'est vrai qu'un service public...
Mais ça n'a pas à être compétitif.
Ça a à être au maximum rentable. Oui. Mais aujourd'hui, dans un TER, effectivement, il y a une grosse part de subvention publique. Dans une cantine scolaire, il y a une grande part de subvention publique. Dans un musée, il y a une grande part de subvention publique. Oui. Et je parle pas de l'école, je parle pas de l'hôpital. Si on considère que c'est un enjeu essentiel, encore une fois, de démocratie, de socialisation, d'aménagement du territoire et de développement économique, à ce moment-là, il faut y mettre les moyens. Les écologistes, pendant 15 ans, on nous a dit « vous êtes des ringards complets parce que parfois vous vous battez contre le tout TGV ». On a dit « attention, on est en train de perdre les transports du quotidien. On n'assure pas la maintenance des transports du quotidien. Sur certaines voies, on le sait, 20%. Des petites lignes roulent moins vite qu'elles le devraient parce que le matériel n'est plus en état.
Et parfois même qu'elles ne roulaient il y a quelques années.
Vous savez que dans certaines lignes, on organise la désaffection des usagers en étant en retard, en supprimant des trains. Tout ça, à bout d'un moment, les gens ils disent « bon, c'est trop compliqué de prendre le train, donc je vais prendre ma bagnole ». Donc on a à refaire de l'investissement sur ces lignes-là et on a évidemment à faire des économies là où c'est nécessaire. Mais est-ce que c'est le statut des cheminots qui sont en cause dans cette affaire-là? Quand il y a une gare, quand vous avez une gare TGV à Sablé, la ville de François Fillon, c'est la SNCF qui a été responsable de ce choix, qui n'est pas un choix de rentabilité, qui a été un choix politique. Donc la SNCF paye aussi des choix politiques qui n'ont pas été au service, encore une fois, des millions d'usagers, mais plutôt au service On a ciblé plutôt une population, j'allais dire classe affaires, parce que celle-là, elle est rentable sur les TGV.
Et Yannick Jadot, je vous propose d'écouter le Premier ministre, Édouard Philippe, et ses arguments.
Je veux faire en sorte que nous trouvions une solution durable à l'avenir du système ferroviaire, qui va mal. Il va mal parce que tous les Français le savent, année après année, la qualité de service décroît. Mais alors que nous mettons de plus en plus d'argent chaque année, nous avons des résultats qui sont de moins en moins bons. Ça n'est pas acceptable. Il faut que nous trouvions la façon d'organiser les choses de façon plus efficace pour que les Français qui utilisent le train puissent avoir accès à un service public de qualité.
Voilà, la qualité, l'efficacité, c'est un peu le tonneau, il a l'air de dire que c'est le tonneau des Danaïdes, c'est vrai que la dette est immense.
C'est, effectivement, c'est 50 milliards de dettes, ouais. C'est beaucoup.
45, oui.
Mais on est sur, encore une fois, quel est le type de service public qu'on veut autour du train, comment effectivement on rentabilise davantage, comment on ne se perd pas dans des investissements d'infrastructures qui parfois coûtent extrêmement cher. Et la France est encore engagée, le gouvernement s'est encore engagé sur le Lyon-Turin. Le Lyon-Turin, on est autour de 15, 20, 25 milliards d'euros d'investissement sur une ligne dont beaucoup contestent totalement l'inefficacité au-delà des coûts environnementaux. Donc, investissons là où c'est nécessaire, mais oublions pas, les transports parisiens, que ce soit les RER, tout ça, c'est pas rentable. Mais est-ce que c'est pas une nécessité absolue d'aménagement du territoire, de mobilité des personnes et d'un service au service de l'économie et au service de la démocratie?
Mais il y a aujourd'hui une composante européenne dans cette réforme. C'est aussi pour préparer l'ouverture à la concurrence, qui a été votée au Parlement européen.
Mais absolument, vous avez raison qu'on a une difficulté du côté de l'organisation européenne, mais on sait aussi que, vu comment se passe dans les pays l'ouverture à la concurrence, la SNCF gardera un quasi-monopole sur toutes les lignes. Et il y a quelques lignes qui vont se développer.
Ça sera à la marge, vous pensez?
Bien sûr, ce sera à la marge. Parce que déjà, vous avez tout l'entretien et l'aménagement du réseau. Et ça, il y a très peu d'opérateurs privés qui sont prêts à le faire. Donc, on le voit à certaines lignes, notamment en PACA, des lignes France-Italie qui viennent s'installer. Mais ça va être à la marge. Donc, simplement, encore une fois, faisons attention à ne pas nous tromper de débat. Moi, je rêve d'un grand débat sur le service public des transports. On en a besoin, c'est essentiel pour notre économie. Vous savez, à chaque fois qu'il y a un bureau de poste qui quitte un territoire, les enquêtes montrent que c'est 10-15% de vote Front National en plus. C'est exactement la même chose pour les gares. Les gens se sentent abandonnés quand ils se sentent reclus ou, d'une certaine façon, privés des moyens de transport auxquels ont accès tous les autres.
Sur l'aspect plus politique, donc les syndicats déjà montrent les dents. Est-ce qu'ils promettent donc le grand soir avec un mois de grève? Et on avait dit la même chose sur les ordonnances de travail, dans le fond, que ça allait être compliqué. Et finalement, c'est passé. Comment vous sentez?
Je sais pas. Je sais pas ce qui va se passer. Là, il y a un front uni. Il ne faut pas non plus que la question du statut des cheminots résume la question du service public.
Parce que ça, les Français, ils sont majoritairement favorables à sa révision, voire à sa suppression.
Non, mais qu'il faille adapter le statut des cheminots au monde d'aujourd'hui, c'est normal. S'il y a des avantages qui étaient liés à une période où le rail fonctionnait totalement différemment, il est normal qu'on s'adapte. Il est aussi normal qu'à partir du moment où, dans votre métier, vous êtes trois nuits par semaine en dehors de chez vous, que vous avez très peu de week-end, que le plus souvent, vous ne pouvez pas partir en vacances, en famille, en juillet et en août, il est normal qu'il y ait des compensations. Mais un cheminot, il doit faire 42 annuités aussi pour toucher plein pot sa retraite. Donc, ne fantasmons pas le statut du cheminot. Qu'il faille travailler là-dessus, par la négociation, j'ai pas de problème avec ça. Et j'ai pas de problème non plus à ce que on construise dans notre pays un débat sur la convergence des statuts. C'est vrai que la société française est divisée aujourd'hui selon le statut de votre contrat de travail. La fonction publique, les grandes entreprises, et puis après vous avez les PME, et puis après tous les précaires.
Vous êtes sûr des 42 annuités? Parce que pour partir à la retraite à 52 ans, ayant fait 42 annuités, il faut avoir commencé de bosser à 10 ans.
Il part pas avec une retraite pleine.
Ils partent avec une retraite minorée.
Ah ben, une retraite extrêmement minorée.
Une retraite complète,
c'est donc voilà. Et puis
d'où les régimes spéciaux.
Donc, qui est eu, encore une fois, moi, j'ai pas de souci à ce qu'il y ait une discussion, une négociation là-dessus. Bon. Mais ne tronquons pas l'absolue nécessité d'avoir un débat sur l'aménagement du territoire. Il y a une fracturation de la société aujourd'hui qui est trop violente pour ne pas avoir ce débat-là de manière sereine et sérieuse.
On vous a bien entendu. Il y a le problème des agriculteurs aussi. Et alors, donc Emmanuel Macron a rendu visite à certains, donc au salon de l'agriculture où se presse la faune politique aussi. Laurent Wauquiez cet après-midi, samedi dernier, Emmanuel Macron, toute la journée. Pensez-vous qu'il a trouvé le ton face aux agriculteurs ?
Moi, mon sujet, c'est pas le ton, c'est qu'est-ce qu'il fait ?
Oui.
Qu'est-ce qu'on fait des 9 milliards, près de 9 milliards et demi d'euros d'argent public tous les ans qui sont donnés à l'agriculture et aux agriculteurs? Est-ce que cet argent-là, aujourd'hui, il répond aux attentes des citoyens en matière de santé, de qualité de l'alimentation, dans protection de l'environnement? Je ne crois pas. Est-ce que les aides publiques, telles que défendues encore par ce gouvernement, répondent au fait qu'un tiers des paysans vivent avec moins de 350 euros par mois? Je ne le crois pas. Et donc, c'est ça qui me gêne dans le discours du président de la République, c'est qu'il dit à la fois, il faut changer de modèle, tant mieux, chiche. Mais à chaque fois que j'entends des plans d'investissement, c'est toujours la même chose. Les élevages plus importants, plus larges, donc moins de paysans, et des paysans qui deviennent des ouvriers à des cadences infernales, des animaux qui deviennent des machines. Et l'alimentation qui est low cost. Ou est-ce que, enfin, on utilise ces 9 milliards et demi d'euros pour réduire fortement et très rapidement l'usage des pesticides et favoriser une agriculture paysanne dont le sommet c'est le bio, mais il n'est pas question qu'aujourd'hui toute l'agriculture passe en bio immédiatement. Mais franchement, on a l'argent pour faire ça. C'est pas une question de volume d'argent. C'est une question de choix. Est-ce qu'on aide les agriculteurs à pouvoir exporter de la poudre de lait dans le monde entier?
Mais c'est pas rentable, le bio. C'est pas le... Ils se disent ça, ils se disent le bio, c'est pas rentable.
Je suis désolé, non, mais c'est exactement l'inverse. Non, c'est exactement l'inverse. Oui. Un éleveur laitier, il vend aujourd'hui ses 1000 litres de lait bio, il les vend au-dessus de 400 euros, alors que celui qui vend à Lactalis, il est scotché à 300 euros. Ceux qui font aujourd'hui de l'élevage, de l'agriculture de qualité ou biologique, ils vivent mieux que tous les autres. C'est pour ça que c'est un moment de changement de cycle que les outils publics doivent aider. Parce que, vous voyez bien que même la FNSEA, qui bloque à tous les niveaux pour justement ce changement de modèle, ils veulent que toujours l'argent public aille sur les plus gros, toujours sur l'exportation, toujours sur l'agro-business. Ils sont obligés, non pas de changer leurs actes, mais au moins d'avoir l'air d'avoir un discours qui entend les préoccupations citoyennes.
Alors à propos de l'alimentation...
Donc on est dans ce moment, pardonnez-moi, mais on est dans ce moment où, même, moi je le vois dans les zones rurales, dans les campagnes, des agriculteurs conventionnels, comme on dit, de plus en plus ils vont voir ceux qui ont changé de modèle, pas avec un regard parfois méprisant qu'il y avait 10 ou 15 ans, mais un regard intéressé, parce que eux dépendent moins des intrants, du prix des pesticides, du soja importé d'Amérique du Sud, et en débouché des marchés de Chine ou de Russie. Ils voient bien qu'ils vivent mieux. C'est pas possible qu'avec 9 milliards et demi d'euros, on exporte dans le monde de la nourriture low cost et qu'on importe du bio et de la nourriture de qualité. C'est pas possible.
Parmi les motifs d'inquiétude qui se sont exprimés, notamment au salon de l'agriculture, il y a l'accord de libre-échange avec le Mercosur, l'Alliance économique d'Amérique du Sud. Vous êtes un... d'une certaine manière un spécialiste des traités de libre-échange. Vous avez travaillé sur le TAFTA, le traité transatlantique, le CETA, le traité avec le Canada.
C'est une de mes responsabilités au Parlement.
Voilà, et maintenant donc arrive celui-là. D'ailleurs, c'est curieux parce qu'au fond, on se faisait la réflexion avec Roselyne en préparant cette émission, on n'a quasiment jamais entendu parler avant, il y a 2-3 jours, de cette perspective de signer un accord de libre-échange entre l'Union européenne et le Mercosur. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? L'inquiétude, c'est la viande bovine qui arriverait en Europe, 70 000 tonnes par an, dans des conditions de production et des conditions sanitaires qui n'offriraient pas forcément les mêmes garanties, c'est peut-être le moins qu'on puisse dire, que celles qui sont exigées ici.
Vous avez parfaitement raison. On a l'accord qui a été signé avec le CETA, 65 000 tonnes de bœuf supplémentaires sur le marché européen. L'accord avec notamment le Brésil et l'Argentine, qui sont les deux gros pays du Mercosur, c'est autour de 100 000 tonnes. Et ces pays-là vont exporter vers l'Europe des produits viande de qualité au sens de des morceaux de qualité. C'est le rump steak, ce sont les grillades qu'on fait, c'est toute la partie à l'oyau. Ces morceaux-là sont les morceaux essentiels pour nos éleveurs parce que c'est là-dessus qu'ils font beaucoup de valeur ajoutée, qu'ils arrivent à vivre. Et c'est là-dessus que vivent encore des élevages qui sont des élevages de terroir avec des races spécifiques et tout ça. Comme au Canada et en Amérique du Sud, on autorise les antibiotiques à tire-larigot pour faire grossir les animaux, pas simplement pour les soigner, parce que ça les fait grossir. Comme au Canada, on autorise des élevages de 50, 60, 70 000 bêtes concentrées. En Amérique du Sud, c'est des terrains extrêmement vastes. Donc, en fait, cette viande, elle est de fait moins chère que la viande européenne. Donc, si elle rentre sur le marché européen sans protection aux frontières, c'est tous nos élevages de qualité qui vont sauter. Et vous le voyez dans tous les territoires en France. À chaque fois que vous avez un élevage qui ferme, un élevage qui est en faillite, eh ben, à la fin, il n'y a pas de réversibilité. Une ferme, un élevage qui disparaît, derrière, c'est les images que vous avez à la télé, vous allez mettre du maïs, vous allez mettre de la céréale. Qu'est-ce qu'on peut faire? Il faut refuser ces accords.
Mais est-ce que les conditions de négociation de cet accord-là
sont
comme pour le TAFTA et le CETA, très secrètes,
toujours, très confidentielles? Toujours.
Le principe est le même.
Mais le principe est le même. C'est-à-dire que moi, député européen, j'ai accès à un certain nombre de documents de négociation, mais les responsables
quasiment
de la filière
en entrant dans la pièce.
Les responsables de la filière bovine, qui sont les plus menacés, ils n'ont pas accès à l'accord. Les organisations de protection de la santé, les organisations de protection de l'environnement n'ont pas accès à l'accord. Donc, en fait, le débat ne peut pas se construire avec intelligence dans la société. C'est ça qui est dramatique. Cet accord, il est en négociation depuis 7-8 ans. Et puis d'un seul coup, la Commission européenne essaye de tirer profit de la stratégie de Trump qui est une sorte de démondialisation.
Quel intérêt pour l'Europe, alors, de se tirer une balle dans le pied?
Parce que pour certains groupes industriels européens, c'est l'Eldorado. C'est notamment parce que à chaque fois que nous avons ces accords, nous obligeons nos partenaires commerciaux à libéraliser leur marché public. C'est pour ça d'ailleurs que les Américains étaient très contre le TAFTA. Parce que les Américains ont par exemple le Buy American. Ils protègent leur sidérurgie, ils favorisent leurs PME, ils favorisent leurs entreprises locales.
En fait,
ce qui est intelligent.
Oui.
Mais nous, vous prenez en France Veolia et Suez, ils adorent ces accords-là. Ils adorent ces accords-là parce qu'ils vont pénétrer les marchés publics de ces pays-là pour vendre leurs services de l'eau. Mais est-ce qu'au fond, pour l'intérêt de certains grands groupes multinationaux, ça vaut le coup de remettre en cause nos normes environnementales, nos normes de santé et surtout le sentiment que l'Europe participe de la régulation de la mondialisation, cette mondialisation qui inquiète tellement nos concitoyens. Est-ce que l'Europe participe de sa régulation ou participe de sa dérégulation? Et là, j'attends quand même que le président Macron, qui avait dit halte au feu sur les accords de libre-échange, il semble avoir complètement retourné sa veste.
Yannick Jadot,
sur ce
il nous reste 1 minute 30, on va essayer 2 questions, une très courte, Rosine, sur le glyphosate, puis après peut-être vous voudrez parler de l'avenir de l'écologie.
Oui, si on a le temps. Mais
d'un mot sur le glyphosate, Nicolas Hulot, dans le JDD, dimanche, dit il pourrait y avoir des exceptions. C'est acceptable ou pas, ça?
Vous vous souvenez que dès le lendemain du tweet présidentiel dans l'avion, où il dit « Ah, mais finalement, la France interdira dans 3 ans », vous aviez déjà Stéphane Travert qui dira « Non, non, vous inquiétez pas, la France interdira jamais toute seule ». Malheureusement, encore une fois, là, il y a une collusion entre le ministre de l'Agriculture, une partie du gouvernement et ceux qui veulent que on retarde le plus longtemps possible l'interdiction du glyphosate. Mais j'espère que Nicolas Hulot va retrouver des forces et se battre sur ce dossier-là.
Sur les Verts, l'avenir des Verts aujourd'hui, du Parti Les Verts, est-ce que son avenir se trouve dans la reconstitution d'un parti ou au sein de toutes les familles politiques qui, dans le fond, se disent écolos?
Moi, je crois qu'il faut qu'il reste un mouvement de l'écologie politique. Bien sûr, il faut refonder Europe Écologie Les Verts, qui va pas bien, il faut le dire. Mais quand vous voyez tous les débats sur Bure et le nucléaire, sur le glyphosate et notre santé, sur le Mercosur, sur le climat, on est en permanence dans les sujets écolos et nous devons gagner en crédibilité sur les solutions économiques et sociales de notre projet. Parce que tout le monde voit bien qu'il faut protéger la santé, le climat, notre biodiversité. Mais on n'a pas encore convaincu sur le fait que ça permettait de créer de l'emploi, ça permettait de créer de la démocratie. Et moi, j'y travaille, notamment dans la perspective des élections européennes de l'année prochaine.
Merci Yannick Jadot.
Merci.
C'est la fin de cette émission. Mardi Politique reviendra mardi prochain.
Revenez. Oui.